Une heure à Bamako, à Gao et à Dakar. Bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Salle Plus, nouvelle négociation entre les groupes armés et le gouvernement au Mali. Le nord du pays est dans l'expectative.
On a nos yeux pour pleurer, on accepte. Ton frère ne peut pas te couper les bras. Ton frère ne prend pas des armes contre toi. Ton frère peut te faire ça. S'il négocie, c'est peut-être pour le pouvoir.
Reportage de Boubacar Touré à suivre. Nous serons ensuite au Sénégal, où le premier cas de virus Ebola inquiète les populations, même les plus jeunes. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, à ce micro Jean-Roger Billon.
Sarah Diaby, épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le monde est en train de perdre la bataille contre la progression du virus. Tel est le cri d'alarme lancé aujourd'hui par la présidente des Médecins sans frontières, Jean Liu, a appelé la communauté internationale à financer davantage de lits afin de mettre en place un réseau d'hôpitaux de campagne, à envoyer du personnel médical qualifié et à déployer des laboratoires volants en Guinée, Sierra Leone et au Libéria.
Dr Frieden, directeur du Centre pour le contrôle des maladies aux États-Unis, a tiré aujourd'hui la sonnette d'alarme. Pour lui, les chiffres sont largement en deçà de la réalité. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire annonce l'ouverture de couloirs humanitaires avec la Guinée et le Libéria. Notons qu'aussi, en RDC, on compte à ce jour 31 décès selon le gouvernement.
4 soldats de l'ONU ont été tués dans le nord-est du Mali, dans la région de Kidal. Un engin explosif a touché leur véhicule, annonce l'armée malienne. 2 autres casques bleus ont été blessés.
Il est trop tôt pour savoir exactement ce qui s'est passé, précise une source militaire africaine. Au sein de la mission onusienne à Gao, on ne sait pas encore si le véhicule a sauté sur une mine ou si un engin explosif a été lancé contre le véhicule, précise la source de l'AFP. Les nationalités des victimes sont pour l'instant inconnues.
Nouvelle avancée de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Après plus de 24 heures de violents combats, le groupe islamiste s'est emparé de la ville stratégique de Bama. C'est ce que rapporte l'AFP qui s'appuie sur des témoignages. Boko Haram aurait pris le contrôle de la base militaire de Bama et il ne resterait aucun soldat dans la ville.
Des milliers de personnes ont fui les combats à Bama et se sont réfugiées à Maïdougouri. Boko Haram aurait pris cette ville d'assaut hier matin. Les témoignages indiquent que l'armée avait le dessus, mais l'armée nigériane dément, affirmant au contraire avoir repoussé les insurgés hors de la ville.
Des manifestants qui sont des proches de membres des forces de sécurité irakiennes disparus au cours de l'offensive de l'État islamique ont investi le Parlement à Bagdad. Selon des témoins, les manifestants se sont attaqués aux députés avant d'entamer un sitting au sein de l'hémicycle. Le Parlement devrait aborder le sujet des soldats disparus en plénière, mais la session a été reportée à demain. Dans un rapport publié ce mardi, Amnesty International dénonce un nettoyage ethnique dans des proportions historiques en Irak. L'Organisation de défense des droits de l'homme accuse les djihadistes de crimes de guerre, notamment des exécutions sommaires de masse et des enlèvements visant systématiquement les minorités du nord irakien, notamment les chrétiens et les chiites. Selon Amnesty, des centaines, voire des milliers de femmes et d'enfants de la minorité yazidi ont été enlevés par l'État islamique et des milliers de personnes terrorisées ont fui la zone. Une mission de 11 enquêteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est attendue dans le pays.
Voilà, on est allé un peu plus vite en besogne avec Amnesty International qui dénonce un nettoyage ethnique en Irak. C'était le point avec Lola Akumbachri.
Les djihadistes de l'État islamique ont publié une vidéo qui semble montrer la décapitation d'un deuxième otage américain, le journaliste Steven Sutcliffe. Une vidéo le mois dernier a montré la décapitation du journaliste indépendant Jim Foley. Sutcliffe avait été fait prisonnier en Syrie en août 2013, environ un an après l'enlèvement de Foley. Washington n'a pas encore confirmé l'authenticité de la vidéo publiée ce mardi.
Crise en Ukraine, un responsable du gouvernement signale la présence de militaires russes en 10 endroits dans l'est du pays, y compris dans 2 grandes villes. De même source, on apprend que 15 soldats ukrainiens ont trouvé la mort dans des affrontements avec les forces séparatistes durant les 24 heures.
Selon l'OTAN, la Russie a déployé 1 millier de soldats en Ukraine, une information démentie par Moscou. Entre-temps, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime à 260 000 le nombre de personnes déplacées en Ukraine.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Jean-Roger Billon à ce micro.
Sarah Diaby.
La suite avec Sahel Plus.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par le Mali où de nouvelles négociations ont démarré hier entre le gouvernement et les groupes armés du Nord. Cette seconde phase du dialogue intermalien doit aboutir d'ici la fin du mois à l'élaboration d'un préaccord. La particularité de ces nouvelles négociations est la participation et l'audition des populations concernées. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
La première semaine des négociations sera consacrée aux communautés des régions nord du Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chef de file des négociateurs maliens.
L'écoute des communautés, de l'ensemble des communautés maliennes, en particulier les communautés qui vivent dans ces régions du nord, pour qu'elles s'expriment sur des sujets d'intérêt. Quelle est leur perspective par rapport à ce qu'elles vivent dans ces régions? Quels sont leurs espoirs afin que ces suggestions et recommandations elles-mêmes puissent être utilisées pour alimenter le processus de dialogue.
Après les auditions des populations des régions nord du Mali, il y aura 3 semaines de travail dans le cadre des équipes de négociation.
C'est que nous espérons, et avec l'aide de la médiation, qu'à l'issue des 8 semaines, nous puissions arriver à un préaccord qui puisse cimenter l'essentiel des engagements des parties, ce n'est pas encore un accord, et qu'à l'issue de cette seconde phase aussi, ces éléments d'accord puissent aussi faire l'objet de partage.
À la veille de ces pourparlers, le gouvernement malien a procédé à la libération de certains éléments du Moujouao. Les organisations des droits de l'homme au Mali ne sont pas d'accord avec ces libérations. Maître Mokhtar Mariko, président de l'AMDH.
Il ne faudrait pas que sous un prétexte, faire amnistier les actes commis par ces bandits au nord du Mali. Nous voulons attirer leur attention sur le fait que les libérations de ces bandits du nord ne doivent pas en aucun cas légitimer d'autres libérations. Et nous voulons vraiment qu'au cours des pourparlers, qu'on puisse mettre l'accent sur les victimes. C'est-à-dire que les victimes sont des laissés pour compte.
Au-delà des questions juridiques, les chefs de file des négociateurs maliens pensent qu'il y aura une ligne rouge à ne pas franchir. Abdoulaye Diop.
À savoir le respect de l'intégrité territoriale du Mali, le respect de l'indépendance nationale, le respect de la souveraineté du Mali et le respect de la forme laïque et républicaine de l'État. En dehors de ces lignes, nous avons vraiment la possibilité de nous mettre d'accord avec nos frères et sœurs de mouvement pour pouvoir dessiner ensemble un avenir commun.
Avant le début des pourparlers, le président malien avait demandé à tous les Maliens, chrétiens et musulmans, d'organiser des prières afin que les pourparlers puissent se tenir dans le calme et la sérénité. Ibrahim Boubacar Keïta, à sa sortie de la grande cathédrale de Bamako après la messe.
C'est bon que nous soyons ici en communion avec l'église du Mali pour prier pour la paix. Ce que nous avons fait est de fort belle façon. Je parle je suis satisfait et je souhaite de tout mon cœur que les prières faites ici, celles faites vendredi en la grande mosquée de Bamako, que toutes ces prières-là convergent pour le seul bonheur du Mali et président au pourparlers.
À Bamako, les organisations de la société civile dénoncent la mauvaise organisation des pourparlers. Pour elles, ce ne sont pas des vrais acteurs de la société civile malienne qui prennent part à ces rencontres d'Alger. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Et Bamako, vous nous écoutez sur le 102 FM. Dans le nord du Mali, ces négociations sont extrêmement suivies par la population. Si certains restent optimistes, d'autres s'étonnent de la lenteur du processus. Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Les populations de la région de Gao, comme tous les Maliens, ont les yeux braqués sur la capitale algérienne devenue la ville la plus importante au monde pour les Maliens, actualité oblige. À Gao, certains souhaitent que des accords définitifs soient signés une fois pour toutes, mais attention, pas à n'importe quel prix. Oumar Dia, fonctionnaire à la retraite, représentant des sociétés coopératives de consommation de Gao.
Nous, notre souhait, que ça soit vraiment la définitive, quoi, parce qu'on a eu tellement de réconciliations. Finalement, on ne croit même pas à ça. Mais si c'est la dernière qui permet d'amener la paix au Mali, on ne souhaite que ça. Ceux qui se disent rebelles, c'est des Maliens comme nous. Ceux qui ont dans la tête là, diviser, avoir une partie, ça c'est impossible. Ils n'ont qu'à venir et que nous soyons tous là-dedans. Ils ne souffrent pas plus que nous. Alors tant qu'on n'a pas la paix, on ne peut pas se reposer sur cette organisation.
En ce moment précis, quel est le message et au gouvernement malien et aux groupes armés pour qu'on puisse sortir de cette impasse?
Tout ce qu'ils veulent décider, c'est de tenir compte de notre situation. Parce que ça ne va pas. Que ça soit le gouvernement, que ce soit eux, il ne faut pas qu'ils nous mettent dans une situation que nous ne pouvons pas vivre. Nous, on est partis avec nos familles, on est revenus encore. On ne bougera pas d'un pouce. Bon, les autres qui se rebellent, on se connaît. Et qu'ils reviennent, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin et qu'on traverse.
Madame a bien voulu garder l'anonymat. Elle est pessimiste quant à l'aboutissement d'un accord de paix. Et elle se demande d'ailleurs sur quoi on va négocier à Alger.
Quand il y a conflit, il faut nécessairement qu'il y ait des négociations. Mais sur cet aspect-là, je me demande est-ce que ce serait bien possible. Mon souhait, c'est que ça répond à nos attentes. Parce que je vois que ça ne va pas. Malgré les sacrifices, le pays est encore en guerre, ça ne va pas. Chaque fois, il y a des attaques, il y a de ceci, cela. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils doivent, de leur côté, vraiment fournir d'efforts et maîtriser leurs partisans. Quand on parle d'accord, là, c'est de deux côtés. On dit que tous les groupes armés doivent participer. D'accord. Mais au juste, sur quoi ils vont négocier? Ils sont tout pour nous, mais c'est des trucs qu'ils ignorent aujourd'hui. Donc, c'est des rebelles, il faut essayer de les comprendre. Je ne pense pas si ça peut aboutir.
Quant à Sidi Mohamed Koulibaly, employé de bureau, pour lui, la préoccupation des victimes de l'occupation n'est pas prise en compte.
Ces négociations à notre niveau, nous, on ne comprend rien dedans même. Tant plus que la négociation doit commencer par la base, les populations victimes. C'est là qu'on négocie d'abord qu'est-ce qu'ils veulent de tout ça, qu'est-ce qu'ils entendent de l'État, qu'est-ce qu'ils attendent de la communauté internationale. Ils se réfèrent sur ça pour aller négocier les intérêts de la population. Mais nous, nous comptons que maintenant, ils vont négocier seulement, les demander ce qu'ils veulent, les accorder ça et venir encore, okay, sans tenir compte de nos préoccupations, nous. C'est dommage. On a nos yeux pour pleurer, on accepte. Ton frère ne peut pas te couper les bras. Ton frère ne prend pas des armes contre toi. C'est une population qui s'est déplacée à 99%. Comment ils ont vécu ça? Ton frère peut te faire ça? S'il négocie, c'est peut-être pour le pouvoir. Le pouvoir en négocie pour leurs intérêts, pas pour cette population-là. C'est tout. Ils veulent finir leur mandat, faire d'autres mandats. Ils vont n'importe quoi. Ils vont signer n'importe quoi là-bas. Ce n'est pas nos préoccupations ici. Vous ne pouvez pas libérer des terroristes. Ils viennent en ville encore avec nous. Et on ne peut rien dire. Il faut négocier. Après, si dans les négociations, on voit qu'il est nécessaire de libérer ou bien d'indemniser des gens, c'est possible. Mais vous les libérez avant même de négocier. Si on les libère tous, on ne poursuit personne. Cette rébellion-là va se refaire encore. Nous, on est là, on n'est pas mort d'abord. Peut-être nos arrière-petits-fils vont vivre ça.
Entre partisans de l'autonomie des régions du Nord et partisans de la démocratie renforcée, à qui cette rencontre profitera à Alger? Affaire à suivre. Gao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+, sur La Voix de l'Amérique et sur le 101.7 FM à Gao, sur la radio à Adar, Coïma. Direction le Sénégal pour terminer l'émission. Le Sénégal où un premier cas Ebola a été signalé. Il s'agit d'un étudiant guinéen qui a pu rentrer dans ce pays malgré la fermeture de la frontière. Il est actuellement mis en quarantaine à l'hôpital de Fane, juste à côté de l'université de Dakar. Un cas unique pour le moment, mais qui fait beaucoup parler au Sénégal, comme l'a constaté notre envoyé spécial Idriss Fall.
Devant le centre hospitalier national universitaire de Fane à Dakar, où est actuellement mis en quarantaine ce jeune étudiant porteur du virus de l'Ebola venu de Conakry, la vie semble poursuivre son cours normal. Les vendeurs de fruits, les vendeurs de cigarettes continuent leur travail normalement. Devant l'entrée, deux agents de santé qui portent des gants posent des questions de routine aux Sénégalais qui viennent visiter leurs malades dans ce centre hospitalier qui jouxte l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais la maladie est présente dans les têtes. Au rectorat de l'université de Dakar, c'est-à-dire la porte à côté.
La maladie Ebola, c'est une maladie qui est très grave. Des milliers et des milliers de morts de par les pays africains. Comme maintenant au Sénégal, il ne fallait même pas accepter à ce que le malade soit interné dans nos hôpitaux. Il fallait le même jour le retourner en Guinée, comme ça là on serait au moins sauvé. La santé est pour le citoyen un élément primordial de leur bonheur et pour la nation entière un exceptionnel développement, voire même de prospérité économique. Donc le Sénégalais, les Sénégalais ne devaient même pas accepter à ce que l'Ebola quand même pénètre ici au Sénégal. Il fallait le même jour que le malade est arrivé, le retourner directement en Guinée. Ça c'était la meilleure solution pour le Sénégal pour au moins faire éviter quand même cette maladie.
Ce n'est pas encore la psychose nationale, on continue à se serrer les mains. Les habitudes changent dans certaines maisons, on se lavait dans un bol commun pour manger dans un plat commun. Aujourd'hui, on essaie de se laver les mains individuellement. C'est quoi l'Ebola? Écoutons ces éléments de réponse avec ces enfants dans un quartier populaire. Ils ont généralement entre 5 et 14 ans.
C'est une maladie.
Et qui est transmise comment?
Par la santé. Par la santé.
Est-ce que c'est une maladie qu'on peut guérir?
Oui, par un sérum.
Et vous n'avez pas peur de l'Ebola?
Oui, si. C'est une maladie qui fait mourir les gens.
Et on l'attrape comment?
Par des saletés. Il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau.
Est-ce que vous avez peur de l'Ebola?
Oui, parce que c'est une maladie qui fait sortir du sang dans
l'Ebola.
Dans le nez.
Vous aussi. Dites-moi ce que vous pensez de l'Ebola. Est-ce que vous avez peur ou pas?
C'est une maladie qui tue les gens.
Qui tue les gens, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'attraper cette maladie?
Toujours laver les mains avant de manger.
Laver les mains.
Chaque jour.
Chaque jour.
Toujours laver les mains avec du savon.
Toujours laver les mains avec du savon.
Depuis Dakar, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Joselle Morissin qui était à la réalisation, à Alfredo Santos qui était à la technique, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Angélique Kidjo et le titre Afia. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Babuta me subola na mwagwene na ololo na vovo e clausera non lo merito le te bo coro la toi ci fuera non lo decale te bolo daro no ponaro bolo ah agwenyo le te pauselo.
to see.